franceinter.fr.
France Inter. Hélène Roussel. Le 6-9 de l'été.
Notre invité ce matin, Pascal Saint-Amand, qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Une question rapport à l'actualité récente et qui a pu choquer pour avoir révélé le scandale du LuxLeaks, pour avoir révélé les centaines de comptes cachés au Luxembourg. Deux hommes ont été condamnés fin juin par la justice luxembourgeoise, deux lanceurs d'alerte à de la prison avec sursis. Pascal Saint-Amand, c'est le monde à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas les lanceurs d'alerte plutôt que de les condamner?
Mais c'est une bonne question et c'est d'ailleurs pourquoi il y a plein de législations en cours d'adoption dans différents pays, c'est le cas de la France, pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est une question compliquée parce que ils violent la loi dans un certain sens, mais c'est pour la bonne cause dans un autre sens. Et donc il est important de les protéger. Je crois que la loi Sapin 2 va dans cette direction. La seule bonne nouvelle qui venait du Luxembourg, c'est que le journaliste Édouard Perrin, qui avait été à l'origine de l'annonce des LuxLeaks, lui a été relaxé. C'était assez invraisemblable que le Luxembourg poursuivre un journaliste pour avoir révélé des informations de cette nature.
Pour avoir fait son boulot. Vous étiez appelé à témoigner, il me semble, à ce procès.
J'ai été appelé à témoigner et hélas, en tant que fonctionnaire international, on ne peut pas témoigner sur des procès dans les différents pays membres, donc je n'ai pas pu le faire à mon grand regret.
Vous parliez à l'instant de la loi Sapin 2 en France, donc une loi sur la transparence et la lutte contre la corruption. Elle doit repasser encore en commission mixte paritaire, mais elle a été adoptée par le Sénat il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, cette loi ?
Elle apporte différents éléments de lutte contre la corruption, d'essayer d'améliorer la lutte contre la corruption, notamment la corruption internationale. La France étant dénoncée régulièrement par notre organisation, l'OCDE, pour n'être vraiment pas bonne dans ce secteur-là. Il y a très peu de poursuites, il n'y a même pas du tout de poursuites d'entreprises françaises. Et je doute que les entreprises françaises ne fassent pas un peu de corruption à l'étranger pour avoir des marchés. Et la France est pratiquement l'un des rares pays à ne jamais poursuivre d'entreprises. Il y a la protection des lanceurs d'alerte. Et puis, il y a une des mesures d'application de l'accord obtenu à l'OCDE pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. C'est ce qu'on appelle le reporting pays par pays qui va obliger les entreprises multinationales à déclarer aux administrations fiscales où est leur chiffre d'affaires, où sont localisés leurs profits, où sont leurs employés, pour qu'on puisse voir, pour que les administrations fiscales puissent voir si la planification fiscale est trop agressive ou pas. En d'autres mots, si tous les profits sont au Bermudes alors que les ventes sont en France et que les employés sont en Chine, ben manifestement, il y a un problème. Ça, c'est une mesure que l'OCDE a fait adopter par tous les pays du G20 et tous les pays de l'OCDE. 90% de l'économie mondiale, ça a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement du G20 en novembre dernier. Et on est content de voir l'application en France, mais aussi dans tous les pays de l'Union européenne, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en Chine, au Japon et ailleurs.
Vous avez présenté à cette occasion donc les critères pour constituer la liste des paradis fiscaux, c'est ça ?
Alors, on a par ailleurs la semaine dernière au Japon, juste avant les élections dont on a parlé il y a une minute, une réunion importante de plus de 80 pays, puisque l'OCDE s'ouvre en matière fiscale à tous les pays intéressés, notamment les pays en voie de développement. Et on a adopté, à la demande du G20, des critères objectifs pour pouvoir faire une liste des paradis fiscaux. Ces critères objectifs, ils sont liés à ce qu'on appelle la transparence fiscale. Quand est-ce qu'un pays offre suffisamment de transparence, suffisamment d'échanges de renseignements pour être considéré comme coopératif? Et inversement, quand est-ce qu'il n'est pas suffisamment coopératif? Et donc, si un pays ne fait pas de l'échange automatique de renseignements bancaires à compter de l'année prochaine, si un pays n'a pas les instruments juridiques qui permettent de faire effectivement l'échange, ou si un pays n'est pas bon dans sa pratique actuelle de l'échange de renseignements, eh bien nous recommanderons au G20, qui se réunit la semaine prochaine à Chengdu, en Chine, nous recommanderons au ministre des Finances du G20 d'adopter une liste en juillet 2017. Donc, on laisse une période d'un an de grâce aux juridictions et aux pays concernés pour changer leur méthode, à défaut de quoi ils feraient l'objet d'un listing.
Pourquoi c'est si compliqué d'établir la liste des paradis fiscaux? On la connaît, non ?
C'est compliqué parce que, oui, on les connaît, mais ça ne marche que si les pays sont d'accord pour les lister. Et alors, faire se mettre d'accord la Chine, les États-Unis, le Japon, les pays européens et plein d'autres, il faut du consensus. À défaut de quoi, c'est les ONG peuvent sortir des listes, mais il n'y a pas l'impact d'une pression politique des États. Et donc, si on veut que les États se mettent d'accord, ben, il faut avoir des critères objectifs qui font que tout le monde est d'accord. Et lorsque vous avez, par exemple, la Turquie qui n'est pas absolument génial sur l'échange de renseignements et qui est un membre du G20, bah, il faut trouver quelques astuces pour faire en sorte que les Turcs soient d'accord pour faire une liste alors qu'ils pourraient être dessus.
Alors, j'ai peut-être une question bête, Pascal Saint-Amand, mais est-ce que c'est vraiment une question géographique? Parce que finalement, quand on sait que les comptes sont transférés comme ça en un clic de souris, ça paraît finalement assez dérisoire d'avoir la carte.
Alors, il y a deux sujets. Il y a la carte des paradis fiscaux, et donc ça, c'est de la géopolitique. C'est lorsqu'on nomme un pays, on a un impact sur sa réputation. Vous vous souvenez des Panama Papers,
oui,
c'est pas
sûr.
Loin. Et lorsque l'on nomme Panama, moi je faisais ça depuis 2 ans. J'avais même des menaces de mort de la part d'avocats panamais en disant « vous ne pouvez pas nous nommer, c'est scandaleux ». Donc, le fait de nommer les paradis fiscaux, c'est avoir un impact sur leur réputation, donc un impact économique, et donc ça les conduit à changer. Puis il y a un autre sujet qui est le reporting pays par pays. Obliger les entreprises à dire où elles ont localisé leurs profits. Et ça, ça a un impact économique sur les entreprises. Parce que si elles continuent à faire une planification extrêmement agressive, comme c'est le cas aujourd'hui, on connaît les noms des grandes entreprises américaines, mais aussi françaises, allemandes et de tous les pays du monde, qui font de la planification fiscale très agressive, de l'évasion fiscale, pour le dire comme ça. Eh bien, si on les oblige à révéler au moins aux administrations fiscales à quoi ça ressemble pour que les administrations fiscales aient la vision globale, comme les PDG de ces entreprises, eh bien, ces entreprises vont mieux se comporter. Et donc, elles auront une planification moins agressive. Et on a toute une série de mesures. C'est pas juste cette mesure du reporting pays par pays. On avait 15 mesures qui avaient été adoptées par les chefs d'État et de gouvernement du G20 pour faire quelque chose de simple, in fine, qui est de réaligner la localisation des profits avec la localisation des activités. En d'autres mots, vous pouvez pas mettre votre profit dans un pays où vous avez pas d'activité. Donc, plus de boîtes vides aux Bermudes et ailleurs. J'ai rien contre les Bermudes. Elles y peuvent rien. Ils ont pas de fiscalité. Mais le problème, c'est que les règles de fiscalité internationale, des choses un peu compliquées, les prix de transfert, les conventions fiscales, n'étaient plus adaptées. Ils ont été développés en 1926 par la Société des Nations et pratiquement pas mis à jour depuis. Là, on a fait une mise à jour complète de ces règles pour remettre les choses en ordre, en quelque sorte.
Un chiffre vertigineux, hein, toujours 11% du PIB mondial serait caché dans les paradis fiscaux, plus de 8 000 milliards de dollars. C'est vrai que c'est énorme, c'est vertigineux. Est-ce qu'on peut vraiment... se dire qu'aujourd'hui, les Panama Papers, par exemple, ont changé la donne, que les mentalités ont changé.
On n'a pas attendu les Panama Papers. On a lancé ces travaux dès 2012, c'est-à-dire avant les grands scandales Starbucks, Google et autres au Royaume-Uni à l'automne 2012. L'OCDE avait proposé au G20 de travailler sur ce qu'on a appelé l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices. Ça s'appelle BEPS en anglais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter contre cette planification fiscale agressive des entreprises, contre l'évasion fiscale des multinationales, en changeant les règles. Alors, vous avez raison de dire que les montants sont très élevés. On les a estimés à l'OCDE. L'enjeu fiscal pour les États, c'est de l'ordre de 250 milliards d'euros par an qui sont perdus pour les caisses de l'État. Et qui c'est qui supporte la charge fiscale? Ben, c'est les femmes et les hommes de la rue qui vont payer de la TVA, qui vont payer de l'impôt sur le revenu, alors que ce qu'on appelle les facteurs mobiles de production, les multinationales, elles ne payent pas leur quote-part en raison des défaillances de la coopération fiscale internationale. Donc il fallait changer ça. Et la bonne nouvelle, des fois il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'on a eu une vraie pression politique, un accord au niveau du G20, de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, de l'Argentine, des pays européens, pour changer les règles. Ça a été très compliqué, mais on l'a fait en 2 ans, extrêmement rapidement, pour remettre les choses, une fois de plus, en ordre. Et on a confiance que l'impact va être important. On le voit d'ores et déjà, il y a eu ce qu'on appelle des profit warnings, c'est-à-dire des alertes de la part des entreprises multinationales à Wall Street, à la bourse, pour dire qu'elles paieront plus d'impôts et donc il y aura un impact sur leurs profits. Alors c'est dommage pour les actionnaires, mais c'est une bonne nouvelle pour les États et c'est une bonne nouvelle pour les citoyens des différents États.
Donc Pascal Saint-Amand, vous êtes optimiste?
Oui.
Sur le changement du système. Vous ne bougez pas, monsieur Fiscalité de l'OCDE. On vous retrouve juste après la revue de presse sur France Inter avec les questions des auditeurs au 01 45 24 7000 à 8h40 et sur Twitter, hashtag interactive. Il est donc 8h30. Hélène Jouan vient de s'asseoir dans le fauteuil de la revue de presse.